Avec Radio FM+, nous avons eu la chance et le bonheur de découvrir la nouvelle exposition au musée de l'Odève, En route vers l'impressionnisme, le paysage dans les collections du musée des Beaux-Arts de Reims. Cette exposition a lieu du 1er octobre 2022 au 19 mars 2023. Nous sommes plusieurs journalistes avec d'autres radios à interviewer Madame Delot, directrice conservateur du musée de Reims, et Madame Papin, directrice conservateur du musée de l'Odève. La question se posait de la présence de 11 peintures de Camille Corot faisant partie du fonds du musée de Reims. Voici la réponse de Madame Delot.
Nous avons eu la chance au XIXe siècle d'avoir beaucoup de collectionneurs, aussi bien dans le textile que dans le champagne, qui ont collectionné cet artiste et qui en ont fait don ou legs à chaque fois à la ville de Reims et donc à son musée des Beaux-Arts.
L'intitulé de l'exposition est « En route vers l'impressionnisme ». Madame Papin, pouvez-vous nous en dire plus concernant ce cheminement, en quelque sorte ?
Alors c'est l'idée effectivement du mouvement, c'est l'idée du parcours de cheminement vers quelque chose. C'est aussi l'idée d'une transformation de la vision de la peinture de paysage, puisqu'on passe d'une peinture le paysage n'est pour l'académie pas un sujet majeur, enfin noble en tous les cas. Il sert dans la peinture d'histoire comme élément de contextualisation, mais là nous sommes dans toute cette période qui fait du paysage un sujet en soi, et donc c'est ce cheminement qui est dans l'idée du titre. Alors vers l'impressionnisme on aurait pu dire et au-delà, puisqu'il y a quand même une section consacrée à des peintres rémois plus en tous les cas en lien avec Reims plus récents, mais bon, après il y a toujours des histoires de communication qui font que l'impressionnisme, ça parle à tout le monde.
Catherine Delot, je me tourne vers vous parce que, comme vient de dire Ivan Papin, le sujet est le paysage. Pourtant, dans beaucoup de tableaux de paysage de cette époque, on retrouve le personnage. Personnage alibi ou...
C'est vrai, comme disait Yvonne, le paysage n'était pas un des grands genres connus. Il y avait le portrait, la peinture d'histoire, des choses comme ça, mais le paysage n'était pas reconnu, et c'est vrai que malgré tout, par le biais, on pouvait avoir un portrait avec un paysage en arrière-plan, mais là, il va permettre à la limite de faire la transition avec une reconnaissance du paysage, et il anime un petit peu le paysage. Il vient, c'est un prétexte, j'allais dire. On a toujours ce petit personnage qui vient éclairer un petit peu l'ensemble.
Marie-Agnès Salezada pour Radio FM+. Madame Delot, je voulais vous demander si vous pouvez nous parler des travaux au musée de Reims et puis de votre choix de partager votre collection pendant la durée des travaux.
Donc le musée des Beaux-Arts de Reims est fermé depuis 2019 et devrait rouvrir à l'automne 2025. Ce sont des travaux d'agrandissement, de restructuration, de rénovation, de modernisation, c'est vrai, nous en avions énormément besoin. Et donc, plutôt que de garder nos collections enfermées dans nos réserves, qui sont également neuves, puisque nous avons des réserves depuis 2 ans qui ont été refaites, des réserves de 5 500 m², reprenant toutes les nouvelles technologies, et c'est vrai que nous travaillons beaucoup mieux, et les agents apprécient beaucoup ces nouvelles réserves. Mais bon, les œuvres ne sont pas faites pour rester en réserve, et c'est vrai que donc nous avons sollicité les conseillers musées des différents DRAC de France par le biais de notre conseiller musée Grand Est, et donc il a contacté un petit peu toutes les régions. Nous avions déjà travaillé avec le musée de l'Odève, et donc c'était une évidence de soit faire des expositions, soit de faire des dépôts. Donc nous avons fait des dépôts dans de nombreux musées français, entre autres au musée Fabre, où il doit y avoir 3 ou 4 toiles du musée des Beaux-Arts de Reims qui sont présentées actuellement. Mais on en a fait des dépôts également à Vannes, Quimper, enfin on a varié. Et puis des expositions complètes, donc il y a l'Odève, il y en avait également au Japon, il y a une exposition qui vient de rentrer, qui a fait une tournée de 2 ans, il y en a une à Châlons en Champagne, il y en a eu à Colmar, et donc on essaye de faire profiter. Mais là c'est vrai qu'on a bien travaillé ensemble, j'allais dire, ça a bien fonctionné, et le thème du paysage est vraiment un thème qui illustre bien nos collections, donc ça nous semblait évident. Et moi en plus, comme je le disais tout à l'heure, donc je suis d'origine de la région, ça m'a fait encore plus plaisir.
Et en fait, l'exposition, là, elle est autour de l'impressionnisme et post-impressionnisme. Est-ce que vous diriez que à Reims, la richesse principale de vos collections tourne autour de ces périodes?
C'est plus École de Barbizon chez nous, malgré tout, dans l'ensemble. On a des impressionnistes. Bon, vous avez pu voir Monet, Renoir, on a Pissarro également présent dans nos collections, mais on va plus illustrer l'école de Barbizon, d'Aubigny, le début de l'impressionnisme. C'est plus ça qui nous caractérise.
Revenons peut-être à l'odeur. Qu'est-ce qui a présidé au choix des œuvres que vous avez fait et au parcours, donc à l'accrochage, au parcours de l'exposition, l'une et l'autre d'ailleurs.
C'est moi qui ai pioché dans les collections. Alors,
c'est déjà une bonne pioche.
En fait, alors il y a toujours bien sûr le rapport aux espaces d'un musée. Donc, on choisit à la fois parce qu'on a des coups de cœur et aussi parce qu'on a en tête nos salles et qu'on sait à peu près quel va être le format d'une exposition. Ça, c'est quelque chose que vous allez expérimenter avec vos nouveaux espaces. Et donc j'ai essayé d'imaginer dans cet espace un cheminement qui marque effectivement l'école de Barbizon, le début de cette peinture en nature. Et je voulais quand même qu'il y ait quelques peintres typiques, enfin vraiment qui caractérisent Reims. Voilà, donc c'était un peu par coup de cœur, et puis après j'ai essayé de voir les affinités entre tel et tel tableau ou peintre.
Justement, vos coups de cœur.
Oh, j'en ai pas mal, mais pas forcément les noms les plus connus. J'aime beaucoup Maxime Moffra, Henri Moret, qui sont deux peintres moins connus peut-être par le grand public, notamment. Une très jolie vue sous la brume du matin de Henri Moret. Évidemment, le Marquet est merveilleux. Et il y a un peintre que j'aime beaucoup aussi, c'est Fritz Tolo. J'ai vraiment une... Oui, j'aime beaucoup ce peintre. Et donc, je suis très heureuse de savoir qu'il y a des œuvres de cet artiste dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Reims. Je crois qu'il y en a au Petit Palais aussi, sans doute, voilà. Mais voilà, ce sont un peu mes coups de cœur.
Votre regard sur ces œuvres de Reims exposées ici sur les cimaises d'un musée modernisé de l'Odève?
Ça fait plaisir, en même temps ça nous projette pour le futur. On se dit, ben, finalement, une fois qu'on aura nous aussi un beau musée, et ben voilà. Je dois avouer que j'ai adoré l'exposition quand je suis arrivée c'est avant-hier, et vraiment j'ai beaucoup apprécié aussi les couleurs choisies pour les murs. C'est important également le choix des couleurs de murs. Et c'est vrai que pour les coraux, ça ressort magnifiquement bien, même pour les peintres rémois. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, parce que c'est pas évident de choisir les bonnes tonalités qui iront avec les peintures. Et là, franchement, je trouve qu'il y a rien à redire, c'est parfait.
Oui, Catherine Delot, vous êtes méridionale, exilée à Reims, je peux le dire comme ça. Avec peut-être une nostalgie, c'est le soleil. Vous avez une salle exclusivement réservée aux peintres rémois, champenois. Et qu'est-ce que vous pouvez en dire?
En même temps, c'est vrai que, comme je vous le disais tout le temps, tout à l'heure, un peu sur le ton de la plaisanterie, c'est vrai que pour Paul Bocquet, on a des paysages qui sont des ciels bas et tristes. Malgré tout, si nous avons un ciel bas et triste, Reims est une ville très agréable à vivre. Et on n'a pas que le champagne, nous avons également plein de choses, nous avons plusieurs sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est-à-dire, comme Montpellier, on avait pris les devants un peu, nous postulons également au titre de capitale européenne de la culture en 2028. On était partis, je crois, un petit peu avant, mais enfin, c'est vrai qu'on est tellement nombreux à postuler. Mais donc là, j'ai dit, en bonne citoyenne rémoise, je vais soutenir malgré tout la ville de Reims. Mais voilà, on a beaucoup de choses et c'est une ville qui est très agréable à vivre. Ah oui, quand je suis arrivée à Reims, j'ai fait toute ma carrière à Reims, donc il y a très longtemps que j'y suis exilée quand même. Mais je m'étais dit, oula, je ne tiendrai pas le choc. Je suis arrivée un 31 décembre, il y avait la neige, c'était triste. Et finalement, c'est une ville très très agréable, il se passe toujours quelque chose. Et donc là, on est vraiment heureux que le musée puisse être refait. Et je pense que les Rémois attendent ça avec impatience. Thank you.
Est-ce que vous pouvez nous parler des legs, des donateurs? Vous nous parliez des du champagne, des de la production du champagne, également du textile. Ces donateurs qui, par leurs legs, ont constitué la richesse du fonds du musée de Reims, des Beaux-Arts.
Tout à fait. Le musée, en fait, a été créé donc à la Révolution à partir des saisies révolutionnaires et à partir des dessins de l'école de dessin qu'avait acheté Antoine Ferrand de Montelon, qui était le directeur de l'école de dessin, et son père. Et puis après, c'est vrai qu'il y a eu énormément de legs pendant tout le 19e et encore aujourd'hui, on a régulièrement, en ce moment, presque toutes les semaines, on a quelqu'un qui veut nous faire des dons, des legs. La dernière grande donation importante, ce sont les dessins et les peintures de Fujita par les héritiers de Kimio Fujita, ce qui fait que nous sommes le premier centre ressources, je veux dire, sur cet artiste. Et donc, au 19e siècle, il y avait beaucoup de maisons de champagne, il y avait beaucoup d'industries textiles qui n'existent plus, mais c'est vrai qu'on a eu des dons à cette époque-là. Aujourd'hui, nous continuons d'être toujours en relation avec les maisons de champagne. Nous avons un cercle des mécènes qui marche moyennement, mais malgré tout, notre présidente est Nathalie Vrancane. Donc, c'est le Champagne Pommerie, Charlotte Sic, enfin, il y a plusieurs maisons de champagne chez eux. Mais nous avons également des liens très forts avec les maisons de champagne Moum, par le biais de Fujita, puisqu'en fait, c'est le directeur du Champagne Moum de l'époque, René Laloux, qui avait permis à Fujita de construire sa chapelle, de lui acheter son terrain, de le financer et de créer cette chapelle qui est, c'est l'art total. On a vraiment les vitraux, la structure, les fresques qui ont été réalisées par Fujita et pour les vitraux par l'atelier Simon Marc. Et puis nous sommes également en lien avec la maison Krug, puisque nous avons Rémi Krug, un des derniers directeurs de la maison Krug avant qu'il ne soit racheté par LVMH, qui nous a donné l'ensemble de la salle à manger de l'hôtel Krug. C'est une pièce qui sera reconstituée dans le futur musée. Et donc nous avons les boiseries, les fenêtres, les portes, la cheminée, la table de salle à manger, les meubles, la desserte, le buffet, de la période vers 1913 à peu près, vous voyez. Après l'Art Nouveau, ça fait la jonction entre l'Art Nouveau et l'Art Déco. On a beaucoup de choses comme ça entre l'Art Nouveau et l'Art Déco. Et par exemple, c'est vrai qu'à Reims, nous avons la Villa Demoiselle qui appartient également, c'est aussi un champagne, le Champagne Demoiselle, et qui aussi, à la limite, c'était un des derniers projets d'Henri Vanier, qui était le directeur donc de Pommerie. Et actuellement, nous avons présenté dans cette salle la salle à manger d'Émile Gallet, qui était pour Henri Vanier, de Nancy, mais également très... Henri Vanier est un des principaux mécènes d'Émile Gallet. Et vous avez le foudre de Gallet dans le cellier Carnot chez Pommery. Et Henri Vanier avait commandé une salle à manger qui, à son décès, a été l'objet d'un procès. Puisqu'en fait, Henri Vanier avait légué toutes ses œuvres d'art à la ville de Reims. Mais les héritiers d'Henri Vanier ont considéré qu'une salle à manger n'était pas une œuvre d'art. Et donc, il y a eu un procès en 1910. La ville a perdu et la salle à manger est restée chez les héritiers d'Henri Vanier. Mais un siècle plus tard, nous devions faire une exposition, on devait fermer le musée sur ça, sur une exposition sur le champagne, les bulles, la fête, voilà. Et donc, je recherchais cette salle à manger, je savais qu'elle était au Japon, et Valérie Thomas, qui est le conservateur du musée de l'école de Nancy, me dit, mais elle m'envoie un mail en me disant, mais Catherine, la salle à manger, en fait, elle va être en vente. Hein. Ah bon? Et donc, en fait, c'était après le tsunami. La salle à manger était dans un musée japonais et le propriétaire du musée, puisque ça fonctionne un petit peu différemment là-bas, vendait toutes les œuvres et les avait vendues à un fonds financier américain. Mais ce fonds financier américain n'avait pas envie de garder les œuvres Art Nouveau et donc il revendait ça chez Sotheby's à Paris. Et donc nous avons dû monter un dossier pour pouvoir racheter cette salle à manger, donc qui est revenue à Reims pratiquement un siècle après puisqu'on l'a achetée en 2013-2014. Et c'était vraiment un gros budget, alors que l'on venait juste de décider de ne plus acheter.
Yvonne Papin, La route vers l'impressionnisme, donc, c'est une exposition qui sera visible ici au musée de l'ODEF jusqu'au 19 mars prochain, 2023. Est-ce qu'il y a des médiations de prévues?
Oui, absolument. Alors, des visites guidées classiques, mais la possibilité de télécharger une application pour être en autonomie également. Et puis des ateliers de pratique artistique sur le thème de diorama, de recréer son paysage avec des petites figurines, etc. Donc évidemment des animations. Et puis bien sûr, il y aura des animations particulières y compris surtout le musée, lors des événements nationaux, journée de l'archéologie, fête de la science, etc.
Moi, j'ai une petite question. J'ai eu un choc sur le Monet et le Moret qui est à côté. J'ai une passion pour Vincent Biolès, qui est un peintre de la région, et je trouve vraiment que dans ce qu'il a peint sur le Pic Saint-Loup et quelques marines, on retrouve les couleurs, alors qu'il y a un siècle. Ça vous a pas frappé quand vous avez vu la peinture au niveau du traitement des couleurs, normalement?
Non, ça ne m'a pas frappé. J'ai pensé à Biolès il y a pas très longtemps à propos d'un autre peintre. C'était quoi déjà? C'était un tableau. C'était Aubertin. Dans sa série sur les Pyrénées, où là j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une connivence, mais là non, mais effectivement il y a ces grands, c'est pas des aplats, mais ces grandes zones de couleurs qui délimitent comme ça un paysage un peu avec des couleurs soutenues. Ouais.
Moi, j'ai été frappée par cette connivence, telle que vous le dites, entre le Belle Île en Mer peinte par Monet et le thème de l'exposition précédente, c'était Francis Aubertin. Ça, on est dans le même univers.
Oui, ce sont des sites qui ont attiré les peintres, que ce soit les côtes bretonnes ou les côtes de la Méditerranée, mais plutôt côté Côte d'Azur, effectivement. Ce sont des paysages tellement presque violents, enfin avec des éléments forts, le vent, le massif de l'Estérel pour le sud, etc.
Et dans le traitement du paysage également, l'utilisation des touches de peinture, enfin c'est frappant.
Qui effectivement m'intéresse personnellement, c'est l'évolution du regard des collectionneurs.
C'est vrai que quand on compare rien que Madame Pommery et Henri Vanier, Madame Pommery, par exemple, va acheter vraiment de la céramique 18e siècle, elle est encore dans l'esprit, j'allais dire, ancien, et lui, il ne va acheter que des peintres pas forcément connus ou des artistes pas forcément connus, par exemple dans le domaine de la céramique, il va prendre vraiment les peintres de son temps et il ne va pas chercher à faire fructifier, j'allais dire, en achetant des peintres sûrs,
définis.
Voilà, c'était pas spéculateur forcément, et il achetait plus ce qui lui plaisait. Et c'est vrai que quand
on a l'inventaire après décès et que l'on sait exactement où étaient positionnées les peintures dans son appartement, c'est assez étonnant, j'allais dire.
L'histoire du goût qui fait que quand il y a eu le débat sur l'inaliénabilité des collections qui a été un peu remise en question, oui, bien sûr, on peut se poser parfois la question, mais inversement, si on avait décidé à l'époque, parce que on s'intéressait pas aux pompiers, d'éliminer tous ces tableaux-là, on serait passé à côté de tout un pan de l'histoire de l'art et aussi du goût de l'époque. Donc c'est quand même problématique d'avoir une vision assurée de l'histoire de l'art et du coup les collectionneurs, je trouve, pour ça sont vraiment passionnants parce qu'ils nous montrent souvent, alors, sauf ceux qui spéculent uniquement, parce qu'il y en a beaucoup dans l'art contemporain notamment, mais voilà.
Dans cette exposition, on traverse les salles consacrées à l'impressionnisme, le post-impressionnisme. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi du contenu de la dernière salle, avec cette exposition consacrée aux artistes rémois, en particulier ces représentations autour des saules, de la vesle. Je suppose qu'on dit, on prononce comme ça, Vel.
Pas le S, voilà. Oui. Il y avait beaucoup de peintres comme ça, champenois. Il y a Armand Guéry, qui est un peintre que l'on retrouve très souvent dans les salles de vente, Paul Bocquet. Donc, on a vraiment tous les alentours, tous les petits villages de Reims qui sont représentés et qui illustrent bien où les fermes champenoises et la vie vraiment, au 19e siècle et au début du siècle, je veux dire, à Reims et autour de Reims. C'est vraiment une vie rurale. On est une région rurale. De toute façon, encore aujourd'hui, on est une ville rurale. Même si on est une grande ville, on a toujours cet esprit, cette ruralité qui est très présente à Reims.
Moi, j'ai une question qui se rapproche un petit peu de cette thématique. Vous nous avez... Il y a de très beaux tableaux de Corot, donc une très riche collection à Reims, et c'est un précurseur de l'impressionnisme. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi?
Alors pour moi, ce serait presque plus d'Aubigny, le précurseur de l'impressionnisme, plutôt que Corot. Corot va les connaître naturellement, les jeunes peintres, les futurs peintres impressionnistes, mais pour moi, c'est plus... alors c'est vrai qu'il y a toujours discussion par rapport à ça, mais pour moi, c'est plus d'Aubigny qui sera le précurseur, le premier maître de l'impressionnisme.
Alors moi, je dirais que Corot n'est pas un précurseur de l'impressionnisme, clairement, parce que pour moi, il est encore dans une certaine tradition néoclassique, puisque... Même s'il peint à l'extérieur, il recompose dans l'atelier. Et donc, c'est quelqu'un qui est très sensible à la lumière, mais pas de la même manière.
La question a été posée, pourquoi est-ce que le public doit absolument venir voir cette exposition en route vers l'impressionnisme? À quoi Madame Papin a répondu, parce que s'il ne venait pas, il passerait à côté de très très belles œuvres, de peintres connus et moins connus, avec de très belles découvertes qu'il n'a pas forcément l'occasion de voir, parce qu'elles sont, par exemple, un peu éloignées. Donc, c'est pour vous, chers auditeurs, l'occasion de découvrir cette magnifique exposition dans ce très beau musée de l'Odève, récemment restauré avec une équipe très accueillante. En route vers l'impressionnisme, le paysage dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Reims et les horaires d'ouverture tous les jours sauf le lundi. Alors les horaires sont 10h30, 17h et 18h le week-end. Fermeture hebdomadaire le lundi. Musée de l'Odève au square Georges Auric à l'Odève. Vous avez également un numéro de téléphone 04 67 88 86 10. Ou consultez le site internet www.museedelodève.fr. À bientôt.